Bonjour, je suis Alexandre Bailleul, le fondateur du site Sport Buzz Business. Pour ce nouvel épisode de notre podcast Entreprendre dans le sport, nous recevons Alexandre Dreyfus, CEO de Chili's et Socios.com, une plateforme de fan token dédiée au sport. Dans ce podcast, nous allons revenir en détail sur l'activité de Socios.com et parler évidemment blockchain, crypto-monnaie, Web3 et monétisation des fans. Alexandre reviendra également sur son expérience d'entrepreneur, lui qui a notamment été un des cofondateurs du site Winamax. Bonjour Alexandre.
Bonjour Alexandre, pareil, c'est facile.
Alexandre, on se tutoie, on se vouvoie.
Ouais, on se tutoie, c'est facile.
Et Alex ou Alexandre?
Alex, pardon.
Alex, ok. En guise de courte introduction, Alex, est-ce que tu peux nous présenter Socios.com et Chili's? Parce que l'un ne va pas sans l'autre, si j'ai bien compris.
Et alors, l'un n'allait pas sans l'autre, mais ça va être de plus en plus séparé à terme. Alors, en gros, il y a un peu plus de six ans maintenant, on a lancé, on va dire, deux bébés, deux produits. Un, c'était Chili's, qui était à l'époque juste, entre guillemets, un token, on y reviendra là-dessus. Okay. Et deux, on a lancé un vrai plus gros bébé qui s'appelle toujours Socios.com. L'idée était assez simple, c'est que 99% des fans d'une équipe de foot, on va se concentrer sur le foot pour l'instant, ne sont ni dans le stade, ni dans la ville, et parfois même ni dans le pays de l'équipe qui supporte. Mmh. Et c'est particulièrement vrai sur les grosses équipes, enfin les grosses équipes internationales. Et donc il y avait une question de qu'est-ce que l'on peut créer qui est valuable, qui a de la valeur pour un fan, pas dans le sens financier, mais dans le sens fan, mmh. Et qui est aussi scalable, je sais plus comment on dit en français, qu'on peut grandir un peu près partout. Ouais. Okay. Ouais. Et donc, on a créé le concept de fan token, qui sont des sortes de programmes de fidélité sur la blockchain. On a, entre guillemets, inventé ça en début 2018. Et puis, on a eu nos deux premiers clubs qu'on a signés en été 2018, Paris Saint-Germain et la Juventus. Et aujourd'hui, on va dire fast forward 5 ou 6 ans plus tard, bah, on bosse avec plus de 80 ou 100 clubs dans le monde. Et ça se passe pas mal un peu partout dans le monde parce que justement, c'est un sujet très global.
Ok, donc là on voit clairement que c'est un outil, on va dire, digital qui permet au club de monétiser, comme vous le disiez, enfin comme tu le disais, une audience qui n'est pas forcément présente pour aller au stade. Donc nous on le présente souvent comme un produit dérivé un peu digital, quelque chose que justement les clubs peuvent vendre parce que ça reste du business, sauf que les supporters d'une équipe peuvent acheter un jeton donc numérique, donc eux vont passer à la caisse entre guillemets, mais derrière ils ont la possibilité d'accéder à des rewards, à des récompenses, et c'est tout là l'intérêt un petit peu de la plateforme. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce que propose Socios.com justement, et si tu as ouais. un ou deux exemples avec des clubs?
En fait, c'est marrant parce que tu utilises le terme passer à la caisse. Je dirais, j'aime pas trop cette expression parce que c'est pas vraiment le sentiment. L'idée, en fait, c'est que.
C'est pas péjoratif hein, chez nous.
Non, j'entends. En fait, la façon dont on le voit et dans la façon dont on l'a conçu, c'est la chose suivante. C'est qu'en fait, on veut passer d'un fan. Alors, c'est pareil, ça va être un peu de franglais, mais we want to come from a passive fan to an active fan. On va passer d'un fan qui, jusqu'à aujourd'hui, était spectateur. Mmh. Un fan qui va être actif. Alors, il va être actif pas dans le sens, c'est lui qui va aller sur le terrain, c'est pas son rôle, mais il va être actif dans le sens où il aura une relation qui est pas uniquement à sens unique avec le club. Jusqu'à aujourd'hui, ma relation avec le club, moi qui vis à l'étranger et qui aime peut-être le Paris Saint-Germain, c'est une relation à sens unique. Je vais sur Twitter, les mecs me disent c'est cool, ils me disent XYZ, je node, je like. Je commente, mais personne ne lit, donc voilà. Et c'est tout. Et comme je vis pas en France, dans mon cas particulier, je vais pas aller dans le stade. De toute façon, dans le stade, il y a 52 000, alors je sais pas c'est quel montant, mais il y a 52 000 sièges. Les gens ont pas besoin d'autre chose. Ils sont déjà contents avec ce qu'ils ont. Mais le PSG, comme d'autres qui clament avoir 10 millions ou 100 millions de fans, quel que soit le club, il y a quand même, sur 100 millions moins 52 000, il y a quand même un petit gap. Et même sur 10 millions moins 52 000, il y a quand même un petit gap. Et donc, du coup, nous, on pense que notre enjeu à nous, c'est pas d'essayer d'agrandir les stades, c'est plutôt de donner une voix aux fans, une voix et une reconnaissance. Et aujourd'hui, encore une fois, Twitter, c'est un truc anonyme, qui est que à sens unique. Nous, on pense que les programmes de loyalty, de membership, de fidélité, ça va continuer à se développer. Et on pense que ce qu'on fait avec les fan tokens, c'est juste un des verticaux qui en font partie. Et donc, pour donner des exemples de trucs sympas qui ont été faits dans les dernières années, oui. En tout cas ceux dont je me souviens, je prendrais toujours le premier parce que c'était le, pour moi, ça restera toujours le meilleur et c'était une belle histoire. En novembre 2019, Juventus lance son token, son jeton, mais en tout cas son fan token Juventus, mmh. et demande à ses fan à ses détenteurs de jetons, quelle musique voulez-vous avoir dans le stade à chaque fois que l'on va, c'est moi qui, ah non, à chaque fois que l'on va marquer un but. Et donc ça peut paraître petit, mais en réalité pour la première fois, t'avais un club qui demandait à ses fans quelle musique voulait avoir dans le stade quand on marque un but. Et alors, pour la petite histoire et puis pour le fun fact, parce que c'est toujours un peu rigolo, merci Ronaldo. Ronaldo était encore à la Juve à ce moment-là. Et Ronaldo a scoré trois fois. Et donc, du coup, ce jour-là, il y a eu trois fois la musique qui a retenti dans le stade, la nouvelle musique qui a retenti. Et donc ça, c'était parfait pour lancer ça. Et c'était il y a 5 ans maintenant. Et bah, si vous allez dans le stade aujourd'hui, 5 ans plus tard, il y a toujours la même musique qui a été choisie par les fans.
Ok.
Ça, donc... c'est un de mes trucs préférés. Et un autre truc que j'aime bien aussi, c'était les en Turquie, je sais plus quel club, c'était Galatasaray et Trabzonspor de mémoire, qui ont demandé à leurs fans quel numéro de maillot vous voulez que le joueur qu'on vient de signer pendant le mercato porte. Okay. Et donc ça c'est ultra, voilà, ça c'est vraiment voilà le joueur qui va être sur le terrain pendant les quelques prochaines années, le numéro qu'il porte entre deux numéros évidemment, et ben ça a été choisi par les fans. Ce genre de petites choses, bah ça n'existait pas avant, et comme on a réussi à le monétiser, et ben les clubs ont commencé à apprécier ça.
Je te coupe, je dirais pas que ça n'existait pas avant ce genre de dispositif, ça existait depuis depuis de nombreuses années parce que les clubs ont toujours proposé des choses pour engager leur communauté. Mais ouais. La nouveauté pour vous, tu es allé le dire, je t'ai coupé avant, mais c'est la monétisation parce que demander à sa communauté telle ou telle chose, les clubs ont déjà lancé des sondages, il y a déjà eu des interactions. Mais vous apportez une solution, je veux dire de se dire bon bah ça a une valeur aussi et tu peux créer aussi une communauté. C'est du win-win. Enfin, moi, je le vois plus comme ça.
Ouais. Alors, moi, je vais un peu plus loin. Je dirais que la notion de communauté, c'est très vague. Mmh. Et en plus, il y a un vrai sujet aujourd'hui, et ça sera vrai dans les 10 prochaines années encore, c'est qu'est-ce qu'un fan en 2024? Comment est-ce qu'on définit un fan? On utilise, ou supporter. À la limite, supporter, en français, ça marche un peu mieux, parce que le supporter, c'est celui qui est peut-être un peu plus dans le stade. Ouais. Mais en tout cas, en anglais, on utilise généralement fan pour tout. Et du coup, un fan qui est au Japon, un fan qui est au Brésil et un fan qui est à Paris, bah, c'est un fan, mais il consomme sa relation avec la marque, avec sa relation avec d'autres communautés différemment. Moi, ce que j'aime, alors, c'est un petit peu capitaliste ce que je vais dire, mais ce que j'aime avec la monétisation, c'est que ça motive quelqu'un. C'est-à-dire que voter sur Twitter, bah, tout le monde peut le faire. Il y a des bots, il y a des trolls, il y a les fans d'autres équipes qui votent volontairement pour changer ça. Tout d'un coup, vous mettez tu mets une barrière à l'entrée d'un euro, 2 euros, 5 euros, 10 euros, 15 euros. Tu achètes pas ça, puisque de toute façon, tu restes toujours propriétaire de ton jeton. Mais en tout cas, c'est le fait d'être un membre de cette communauté un peu particulière qui te donne le droit de voter. Bah, ça a de la valeur.
Bien sûr.
Parce qu'avoir une voix, ça a de la valeur. Et donc, voilà, nous, on continue à investir là-dedans.
Ok. Justement, tu parlais du mot fan, ça me fait toujours penser. Justement, fan, on l'emploie pour tout, mais tu vois, quand on demande à des gens ou quand tu parles à des gens, tu leur dis, tiens, est-ce que tu regardes la NBA, est-ce que tu aimes bien? 8 personnes sur 10 autour de moi qui aiment le sport se disent, oui, je suis fan de NBA. Mais comme tu dis, ça veut dire quoi être fan de NBA? Ça veut pas dire que tu te lèves toutes les nuits en France avec le décalage horaire à regarder des matchs. C'est juste que tu te revendiques à un moment donné, attiré par ce produit, parce que ça reste un produit, entre guillemets, tu vas consommer sous forme de highlights, de résumés. Et, bon, la NBA, c'est particulier parce que c'est même au-delà, c'est un mode de vie, c'est un état d'esprit, c'est du lifestyle, c'est du produit, du, donc ça englobe beaucoup de choses, comme tu dis, être fan c'est large. Et pour un club comme le PSG à l'international, si tu demandes à des Américains ou à des Sud-Américains, ceux qui sont fans du PSG, bon bah c'est parce que ça englobait aussi beaucoup de choses au-delà de la perf sportive, je pense. Ouais.
Bah, non, clairement. Ouais. Nous c'est pas, il y a, et puis surtout, alors c'est un débat qu'on a surtout en Angleterre plus que dans le reste de l'Europe et du monde, mais tu commences à voir, je vais pas utiliser le terme de conflit, mais t'as un rapport de force entre les fans entre guillemets historiques, donc en ce cas limite en France qu'on appelle peut-être parfois les ultras, qu'on ne qui ont une relation historique avec un club, et puis un fan plus, je dis souvent ça, non exclusif, qui est un peu plus casual, qui est un peu plus qui aime plusieurs clubs, c'est-à-dire que je pense qu'un ultra qui est un ultra de PSG, bon bah il aime que le PSG, ça c'est sa vie, c'est que ça. Mais en réalité, sur les 50 ou 100 millions de fans du PSG, si c'est le chiffre, 99% de ces fans-là sont pas exclusifs à une marque. Ils aiment le Barça pour telle raison, ils aiment un autre sport, l'UFC, la Formule 1, etc. Donc nous on vise et on se concentre sur ces types d'utilisateurs, c'est sur ces types de fans qui sont plus interconnectés avec d'autres marques.
Bien sûr, ouais. Donc c'est une société internationale aujourd'hui. Est-ce qu'on peut rentrer un peu dans le détail du fonctionnement économique avec les clubs avec lesquels vous travaillez? Vous êtes sous contrat, comment ça se passe? Généralement, c'est des contrats qui incluent du sponsoring, donc du financier, enfin une somme fixe que vous versez au club, et après vous entendez sur une forme de royalties, un intéressement sur les ventes. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça fonctionne à ce niveau-là?
Alors, on est comment ça marche? Donc on a les c'est une sorte de licensing en réalité, c'est un peu comme Nike. Alors je sais pas si c'est Nike ou Adidas, non, ça va être Nike chez PSG. Donc Nike paye un certain montant à PSG pour être sponsor, mais aussi il paye le droit de créer et de vendre les jerseys et les maillots au PSG. Bah nous c'est un peu pareil. Nous on paye un certain montant. Est-ce que c'est du sponsoring, du licensing, du partnership, qu'importe, on est un partenaire privilégié et on utilise la marque PSG pour créer un produit qui est donc marqué PSG, qui permet d'avoir accès à des choses PSG, mais c'est nous qui l'opérons. C'est nous qui pour l'instant, ça va changer, je pense, dans les 2 ou 3 prochaines années. Mais c'est nous qui opérons tout ça. Et en fait, bah, c'est simple, hein, chaque fois qu'on génère du revenu, il y a un revenu cher, c'est un revenu qui est partagé. Le club et nous, nous et le club, on bénéficions.
Ok. Et concrètement, aujourd'hui, pour le, alors il y a un cours, c'est ça? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu techniquement la blockchain, c'est quoi, pour ceux qui sont très éloignés de cet univers, mais rapidement. Mais par exemple, si dans nos auditeurs, t'as des supporters du Paris Saint-Germain, combien ça coûte aujourd'hui d'acheter un jeton numérique pour le PSG ou un autre club? Est-ce que c'est le même prix pour tous? Est-ce que ça varie? Est-ce que justement, il y a un intérêt aussi un peu d'investissement, de se dire j'achète un jeton à un moment T à tel prix et peut-être qu'en fonction d'une évolution d'un cours, je peux le revendre. Enfin, comment ça se passe tout ça? Beaucoup de questions.
Ouais. Alors, c'est parti. On se reparle dans 2 heures. Écoute, la bloc. En fait, je prends l'exemple de la Starac. Je ne sais pas pourquoi, en tant que Français. Bon, ça fait 18 ans que je ne vis plus en France, donc je ne sais pas si ça existe encore, mais ou Big Brother ou des trucs comme ça. Mais. L'idée de la blockchain et l'idée de pourquoi on a créé le concept de fan token. Alors, à l'origine, un fan token, ça s'appelait un voice token. Donc, c'était un jeton de voix, ce que ça veut dire. Mais c'était donc un moyen pour voter. On veut voter. Le club va nous dire quelle couleur du jersey vous voulez l'année prochaine. C'est entre A, B, C, D. Il n'y a que les gens qui ont des tokens qui peuvent voter. OK, très bien. Non, l'avantage de la blockchain, c'est que c'est transparent. Donc, contrairement à l'huissier dont on n'a jamais cru qu'il venait sur plateau de TF1 le samedi soir quand il y avait quelqu'un qui gagnait ou perdait, bah là, les gens, ils votent en ligne directement. Il n'y a pas d'intermédiaire. C'est directement sur la blockchain et c'est vérifiable. En plus de ça, ça permet d'être sûr qu'il n'y a pas un pays, une entreprise, où il n'y a pas quelqu'un qui a voté 10 fois, 100 fois ou qui a voté pour 1 million de fois pour telle et telle raison. Et enfin, et c'est le plus important, nous, on pense que comme les tickets dans un stade, le stade à 52 000, un stade, on va dire, à 50 000 personnes, alors évidemment, tout le monde va avoir un stade de 100 000 comme le Barça ou le Real, mais les stades ont une place limitée. Mais il y a une raison pour laquelle il y a une place limitée. Il y a une raison physique, puis il y a une raison économique. C'est que c'est un prix, je ne vais pas dire le privilège, mais en tout cas, ça, le fait qu'il y a de la rareté, ça crée de la valeur. Et donc, de facto, ça crée une économie. Et ben, sur les tokens, la blockchain, ça permet de montrer la rareté. C'est-à-dire qu'il est écrit dans la chaîne, et c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. Il est écrit dans la chaîne qu'il y a, tant, il y a 20 millions de tokens PSG qui ont été créés en 2018-2019, et que ça ne pourra jamais changer. Et donc, comme il y a une rareté, et qui a une utilité, eh ben il y a un marché. S'il y a un marché, eh ben il y a des gens qui peuvent échanger comme les tickets, comme les billets, comme les chaussures, comme les jerseys. Il y a des marchés, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. ça fait partie du jeu entre guillemets. Alors il faut que ce soit bien encadré, et, ça c'est évident. Mais du coup, un fan peut acheter, un fan va consommer nos produits de façon différente en fonction de du souhait que lui a envie. Il y a des fans qui vont acheter un token ou deux tokens pour participer au le fait de gagner des tickets dans la box. On a une box au Paris Saint-Germain par exemple. Et donc on a ça, c'est un moyen pour eux d'avoir accès à ça. Il y a des gens qui vont en acheter 50 ou 100 et qui aussi ont plein d'autres tokens d'autres équipes parce qu'en fait justement ils sont fans de plusieurs expériences et des fans de foot, donc ils ont eu l'occasion d'aller au Barça, ils ont eu l'occasion d'aller à Arsenal ou Manchester City grâce aux tokens de Socios, même s'ils sont basés en France ou ailleurs. Et puis après il y a des gens, oui bien sûr, qui comme tout, comme des gens qui achètent des billets pour les revendre, bah il y a des gens qui achètent des tokens pour les revendre. Ça, nous on n'en fait pas la promotion. Au même titre que les clubs ne font pas la promotion, que tu peux acheter et revendre ces billets, mais pour autant, ça existe.
Ok. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, tu as le prix, par exemple, d'un jeton du PSG ou d'un autre club, ou est-ce qu'il y a…
Bah, ça fluctue. Ouais, chaque token a son propre prix. Okay. Le PSG, aujourd'hui, je crois que c'est 4 et quelques dollars, ou 4 et quelques euros, on va dire. Okay. Et puis, ça fluctue. Ça a été moins, ça a été beaucoup plus à l'arrivée de Messi. Ça fait partie aussi d'un marché, d'un écosystème lié au monde de blockchain et crypto. Où ça fluctue et ça fait partie de, on va dire, ça fait partie de l'environnement dans lequel on vit.
Ok, tu viens de citer Lionel Messi. Il me semble qu'à son arrivée au Paris Saint-Germain, il y avait eu une communication de la part du club et de vous sur un montant qui avait été payé. Alors je sais plus si c'est un bonus ou je sais plus c'était quoi l'intitulé, mais une somme justement en PSG token. J'imagine que ça avait été un beau coup de pub aussi pour le produit. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que vous aviez fait à ce niveau-là avec le club, alors, et le joueur?
Ouais, alors nous on n'avait pas de relation avec le joueur à cette époque-là de toute façon, donc c'était le club qui avait
une partie de son comportement.
Non, pas du tout. Je réfléchis juste parce qu'il y a ce qu'on avait, ce qui a été disclosé, ce qui avait été mis public, mais c'est qu'une partie de sa compensation était payée en token PSG, ce qui était vrai, quel que soit le montant, et c'était jamais public et je le donnerai pas. Mais en tout cas un montant significatif, ça c'est clair. Enfin en tout cas pour le commun des mortels, de token PSG qui avait été payé à Messi.
Okay.
Et payer les taxes et les machins, les bidules. Donc c'est pour ça que je dis que c'était le club, parce que c'était un avantage social. Après, ce qui était intéressant, et ça je l'ai déjà dit, il me semble, mais enfin j'en suis sûr de l'avoir déjà dit, donc c'est intéressant. C'était vraiment un beau moment à ce moment-là. Il me semble que le bonus de sign-up, donc le bonus de signature de Messi, le montant doit être public. Ça devait être, je sais pas, 30 millions, quelque chose comme ça. Mais je l'ai vu sur internet de toute façon. Et ben la petite histoire, c'est que le PSG a généré plus ou moins ce montant-là de vente de token PSG la semaine avant Messi, parce que quand Messi était en, il y avait une rumeur que Messi allait venir au PSG, ça a créé une demande énorme pour le token PSG. Alors c'était en plein milieu de ce qu'on appelle un bull market, c'était en plein milieu de un peu la folie et un peu peut-être de la bulle crypto de 2021. Mais qu'importe, ça a généré énormément de revenus. Et en fait, pour la petite histoire, une grosse majorité, alors le PSG n'avait pas nécessairement besoin de ça, hein, mais le montant du revenu généré par la vente des tokens PSG a payé, en tout cas pas directement, mais a payé, ça a été le même montant que le sign-up bonus. Donc ça, c'était une histoire assez sympa.
Ok. Et justement, est-ce que c'est…
Et d'ailleurs, pour la petite histoire, ça je le dis parce que c'est marrant, le token PSG, par exemple au Brésil, était tradé, donc était échangé plus de fois que le Bitcoin au Brésil à ce moment-là. Et donc il y a eu un élan incroyable et probablement trop d'une certaine façon, mais c'était ça aurait été un grand moment dont on se souviendra quelques années plus tard.
La magie du sport, on en reviendra un petit peu plus
ouais
loin.
Probablement ouais
ouais c'est le sport, c'est quand même une économie à part, je pense, avec les émotions,
la globalisation, il n'y a pas nécessairement de logique. Donc, enfin, le terme économie, je sais pas, il y a
La rationalité est loin,
c'est
des fois.
Sûr. Voilà, la rationalité, je ne commenterai pas.
C'est ça. Et du coup, c'est à partir de ce moment, forcément, que vous avez noué des contacts ou une relation avec lui, parce qu'il est devenu, à un moment T, ambassadeur de Socios.com, me semble-t-il.
Alors,
est-ce
six
qu'il
mois...
l'est toujours
Non, il l'est plus. Okay. C'était quoi? C'était donc, on a signé, il a signé PSG 2021. Nous, on a fait notre deal, je pense, six mois, genre mars 2022, février 2022, un truc comme ça.
Okay.
Et il était ambassadeur de Socios.com, pas de PSG Token, pas de Chélise, mais de Socios.com. Mmh. On a fait ça pendant 12 ou 18 mois, je ne me souviens plus. Ça s'est arrêté et c'est toujours intéressant, mais avec du recul, c'est pas le genre d'initiative sur lequel on devrait. Enfin, d'ailleurs, on a arrêté. Donc, du coup, c'est okay. pas sur lequel on va continuer à investir.
Tu veux dire de miser sur une personnalité du sport en tant que telle?
Ouais, bah déjà parce que nous, on est, enfin notre métier, c'est de travailler avec des équipes, c'est pas okay. travailler avec des individuels.
Okay.
C'est de créer des produits avec la marque des équipes. Okay. Et donc ça, on n'a pas pu le faire, mais on le savait dès le départ évidemment avec Messi. Ouais. On a okay. eu d'autres initiatives en Corée. On a bossé avec un joueur coréen qui était à Napoli, à Naples. On a eu quelques petites initiatives, mais
okay.
Mais pas aussi grosse que Messi, bon, okay. évidemment. Mais du coup, ouais, notre priorité, c'est pas ça.
Ok. Du coup, avec Messi, il n'y avait pas de compensation, je veux dire, d'expérience à proprement parler, c'est ça que tu veux dire avec lui? Il
n'y
avait pas
ouais.
eu d'accès.
Non,
ouais.
non, okay. non, c'était vraiment de l'image et tout. Ouais. Et ça, okay. je pense que c'était une erreur. C'est bien, hein. On va pas se plaindre, mais c'était une erreur. Ouais. On aurait dû se concentrer sur créer, sur créer de l'intérêt pour les fans et l'intérêt, enfin, un lien entre Messi et le produit, pas juste okay. du branding.
Ouais. Juste, tu reparlais tout à l'heure de l'émission de Fan Token, que c'était contrôlé, que c'était limité.
Ouais.
Est-ce que vous pouvez, une fois que vous avez lancé, par exemple, là, avec, on va rester sur l'exemple Paris Saint-Germain, il y a eu 20 millions, c'est ça, de Fan Token,
ouais.
tu disais,
ouais,
d'édité.
Ouais.
Est-ce que vous pouvez en réémettre, ou est-ce que ça, du coup, c'est vraiment bloqué
non,
à 100%?
Bah, ça, c'est bloqué à 100% parce que c'est dans la blockchain. Après, okay. Les 20 millions n'ont pas été vendus okay. lors du lancement ou etc. Donc, il y a okay. grosso modo une période de 8 ans, 8 à 10 ans où le but, c'est de vendre, on va dire, s'il y a 20 millions sur 10 ans, de vendre 2 millions de tokens par an. Ça arrive pas, ça dépend du marché. Donc, du coup, c'est vraiment un sujet à long terme.
Ok. Je reprends mes notes. Il y a une actu récente vous concernant avec le PSG. Donc, le Paris Saint-Germain devient validateur officiel de la Chili's Chain en bon français. Est-ce que c'est correct? Est-ce que tu
Alors,
peux nous expliquer ce que
ça
veut dire?
Veut dire Alors, je vais vous parler en soupe au chou. Alors, qu'est-ce qu'une blockchain? Une blockchain, c'est une table. Alors, moi, chacun a sa propre version de comment il explique ça.
Okay.
Mais pour moi, une blockchain, c'est une table. Il y a 10 sièges. Chaque siège est ce qu'on appelle un validateur. C'est quelqu'un qui valide ce qui se passe sur la table.
Okay.
Et qu'est-ce qui se passe sur la table? C'est des transactions. Il y a des transactions qui sont notées dans un répertoire. Ça s'appelle une blockchain. En réalité, ça s'appelle un ledger. Donc, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça en français. Ledger, c'est un... Bon, je sais pas, un bloc-notes, quoi. Et donc, cette blockchain, plus elle a de gens assis à la table, plus elle devient décentralisée. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est écrit dans ce ledger et qui est validé par les gens à la table reçoivent ce qu'on appelle un reward, ils reçoivent une récompense
okay.
qui est créée par la blockchain. Donc, ils reçoivent mm-hmm. un petit montant. Et c'est pareil pour Bitcoin, c'est pareil pour toutes les blockchains. Hein. Ils reçoivent un petit montant. L'idée, c'est qu'on a demandé, on commence à demander, et PSG était évidemment le premier, à avoir des clubs de venir s'asseoir à la table pour grandir cette table, pour justement que cette blockchain devienne de plus en plus décentralisée et que finalement, tous les gens qui participent à cette table ben, bénéficient d'une certaine exposition économique à la blockchain. Et donc, PSG est le premier club au monde à faire partie de cette aventure. On est évidemment très fiers, Cocorico. Mais c'est super intéressant parce que ça va inciter PSG, ça va inciter les développeurs à utiliser la chaîne, oublier les tokens. On s'en fout des tokens, on s'en fout okay. de Socios, on s'en fout du token PSG. Non, ils vont être intéressés à un écosystème qui est en train de se créer. Et c'est ce qu'on essaye, nous, de pousser.
Ok. Est-ce que ça fait partie au début du podcast? Tu parlais de d'évolution, tu disais là c'est comme ça pour le moment, mais ça risque de changer dans vous le fonctionnement, l'approche. Est-ce que ça fait partie un peu des évolutions à venir de votre métier, de ce que vous proposez, ou c'est encore autre chose?
Ouais, ça va. Ouais, nous, on veut, enfin, on veut que la chaîne, évidemment, soit de plus en plus décentralisée, et surtout, on veut que la responsabilité, ou en tout cas le fait qu'il y ait de plus en plus de fonctionnalités, ne dépendent pas que de Socios. Les 6 premières années de notre existence, bah bon, on faisait grosso modo tout. On voudrait non pas faire de moins en moins, mais on voudrait se concentrer sur ce qu'on sait faire et on voudrait que d'autres gens, y compris les clubs, fournissent plus de services.
Ok. Justement, la réglementation en France, ça donne quoi par rapport à votre activité versus le reste du monde sur les marchés sur lesquels vous êtes? Est-ce que vous avez besoin d'une régulation? Enfin, comment ça se passe sur les aspects législatifs entre guillemets? Parce que dès qu'on parle de blockchain, crypto, voilà, on sait pas trop des fois depuis la France en tout cas si c'est légal. Est-ce que tu peux communiquer? Est-ce que tu peux être affiché sur un sponsor? Est-ce que tu peux faire de la publicité? Enfin, c'est quoi le cadre légal et comment tu vois le marché FR?
Alors, il y a plein de réponses à ta question parce qu'en fait, il y a plein de sujets. Il y a un sujet d'émetteur de tokens, il y a un sujet de plateforme de trading, il y a un sujet de plateforme de ce qu'on appelle custody, donc où toi tu veux mettre tes tokens.
Ok.
Ensuite, en France, sponsor, d'ailleurs, il n'y a pas de sponsor. Il n'y a pas de crypto plateforme sponsor de club parce que c'est bon, grosso modo c'est pas possible. Mais à l'inverse, des wallets, des tokens d'une certaine façon et ou des blockchains peuvent être sponsors. Alors ça n'a pas de sens d'avoir une blockchain sponsor d'une équipe, mais en tout cas la marque d'une blockchain pourrait l'être. Alors, je vais mettre la France un petit peu à part parce que la France est toujours un petit peu un monde un peu à part, mais grosso modo. Nous, par exemple, en tant que société, alors on a plusieurs sociétés. On a la société qui émet les tokens. Elle a un accord d'un régulateur, la FINMA, le régulateur suisse, pour qui confirme que ce qu'on fait rentre dans les régulations de la Suisse et dans ce qu'on fait au niveau et suisse et donc global. Après, on a d'autres licences. Par exemple, pour socios.com, on a des licences en Lituanie. On a ce qu'on appelle des enregistrements en Italie, Espagne et d'autres pays en Europe. On a des recommandations des régulateurs qui disent on pouvait faire ça, on pouvait pas faire ça, par exemple au Portugal. Donc on fait ce qu'on dit qu'on peut faire, etc., etc. Donc ça reste toujours un petit peu tout ça va être harmonisé grosso modo à la fin de l'année avec
D'accord.
une régulation qui s'appelle MiCA.
OK.
Au niveau européen. Et donc là maintenant, grosso modo, on attend de savoir quel pays on va choisir pour mettre notre, on va dire, headquarter sur sa partie régulation. Et ça en reste encore en débat pour nous. Mais l'Europe étant un truc un peu à part entière, après tu vas au Brésil. Au Brésil, tu as le régulateur, l'équivalent de l'AMF au Brésil qui s'appelle CVM. Tu as le président, le CEO, je sais pas comment ça s'appelle, de ce régulateur qui tweetait encore en septembre de l'année dernière que les fan tokens, c'était bien parce qu'on bosse avec les 10 équipes locales et que ça rentrait pas dans le cadre de la régulation existante et que etc etc. Donc chaque pays embrasse ou se bat d'ailleurs. Il y a des pays où pas les fan tokens, mais il y a des pays où la régul où le crypto c'est mal. Alors je vais faire une petite anecdote. Personnel, moi j'ai eu la chance de travailler dans le monde du jeu en ligne avant la régulation, donc avant 2010,
Avec
on avait fait
Winamax, c'est ça?
avec Winamax et puis bosser sur 2, 3 autres sujets aussi, avec Iliad et enfin Iliad Free, etc. Et si tu veux, et pareil aux États-Unis, moi j'ai vendu ma boîte il y a 12 ans aux US, avant qu'une régulation arrive aux US. Et ce qui est vachement intéressant, et là c'est le français qui va essayer de grogner un peu, mais c'est quand t'écoutes la crypto les 2, 3, 4 dernières années, tout est mal, tout est blanchiment d'argent, tout est terrorisme, tout est noir. Eh ben, tu sais quoi, c'était exactement pareil il y a 10-15 ans quand on parlait du jeu en ligne. C'était où le jeu en ligne, c'est mal, c'est l'addiction, c'est du
Le
blanchiment, c'est
blanchiment.
le terrorisme, c'est la triche. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui se réveille qui dit, bah, attendez les gars, on peut taxer ça. Ah ben non, mais si on peut le taxer, c'est super. Donc on va le taxer, puis d'un coup, c'est bien. Ben, là, c'est pareil. Donc moi, je suis pro-régulation d'une façon générale parce que je viens de
Bien
ça
sûr.
pendant les 15 dernières années, 15 ou 20 dernières années. Mais dans la plupart des secteurs que vous verrez sur les 15-20 dernières années, vous verrez, il y a toujours d'abord une approche négative jusqu'au moment où il y a une règle fiscale, puis régulatorie qui vient encadrer ça, et tant mieux, et que tout d'un coup, bah, nos métiers deviennent plus respectables.
Ok, donc tout le monde s'y retrouve, et t'as compris.
Exactement.
Si on revient un peu sur Socios ou Chili's, c'est quoi les revenus en 2023 ou les chiffres clés que vous pouvez
Et ben on n'en donne pas. Ouais, okay. On n'en donne pas parce qu'on est une société privée et okay. On a eu des années, une année 2021 qui était exceptionnelle. On a eu des années beaucoup plus difficiles en 2022-2023 parce qu'on est quand même encore très dépendant des marchés crypto. Okay. Bitcoin aujourd'hui vient de passer le $65,000. Première fois depuis 2 ans et demi quasiment.
Une bonne nouvelle du coup.
Du coup, une bonne nouvelle pour l'industrie. Ça impacte pas du tout par exemple les fan tokens. Okay. Ça impacte pas du tout. Ça impacte Chili's blockchain, oui. Okay. Mais parce que maintenant c'est une blockchain. Mais c'est surtout ça redonne un petit peu de baume au moral. Je sais pas si ça se dit, mais baume au cœur. Parce que pendant 2 ans, les gens disaient oh, tu travailles dans la crypto, quel scam. Et aujourd'hui, tous ces gens-là vont revenir en disant « Ah, si seulement je les avais écoutés
!» Et tu peux nous redétailler un peu le business model de Socios aussi les oui, revenus, vous les tirez d'où les charges que vous pouvez avoir, est-ce que tu…
Nous, on a deux métiers. On a un métier d'émettre, et c'est d'ailleurs des entreprises différentes, on a un métier d'émettre des tokens, des jetons, où là-dessus, notre métier, c'est de vendre des jetons et de partager le revenu généré par la vente de ces jetons. Donc, ça, c'est un revenu et c'est notre majorité de revenus dans le monde. Et après, on a un métier de prendre des commissions comme une place de marché. Là, c'est plus socios.com. Socios.com, quand on achète un token PSG ou autre, il y a un frais de 1%, 2%, 3%. Et ça, c'est un revenu. Ça, ce qui est d'ailleurs régulé. Et voilà. Okay. C'est vraiment nos deux principaux métiers. Mais okay, pour donner aussi une structure un peu en termes de taille, on est quand même 300 salariés, on est 300 salariés dans le monde, on a 9 bureaux dans différents pays, et donc ça reste quand même une grosse boutique.
Ok. Vous avez des bureaux en France ?
On a des bureaux techniques en France, on a une quarantaine de développeurs en France, ouais.
Ok, d'accord. Et justement, tout à l'heure, on parlait marché français, marché international. J'ai bien compris que tu ne nous donneras pas de chiffres sur les revenus, mais c'est quoi aujourd'hui le market numéro 1 chez Socios ou la communauté la plus active, celle qui rapporte le plus à un club qu'est-ce que tu peux dire là-dessus, la France versus le reste ?
Oh, la France n'existe pas, mais nos deux plus gros marchés, c'est la Turquie, le Brésil. Ensuite, c'est Japon, Corée. Et après, on rentre un peu en Europe avec l'Italie en premier de loin. Okay. La France doit être, je sais même pas si la France est dans le top 10, mais c'est pas du tout. Déjà, c'est pas une priorité. On fait pas de marketing du tout en France.
Tu veux dire que d'être partenaire du PSG et le fan token, il s'adresse uniquement après au marché international. Il intéresse peu, on va dire, le marché local.
Il est principalement pour le marché international. C'est quelque chose que j'ai envie de vous dire par design.
C'est l'utilité aussi du, comme tu l'expliquais, d'aller toucher aussi des gens.
Les gens qui vivent à Paris n'ont pas besoin de nous pour interagir avec le PSG, c'est la réalité. Les fans du PSG de Marseille, il doit bien y en avoir un ou deux. Alors eux, oui, peut-être qu'ils seront intéressés, mais c'est plus les fans du PSG au Japon, en Corée, au Brésil, en Turquie, en Italie, en Middle East, Moyen-Orient, tous ces gens-là qui sont intéressés par le produit.
Ok. Est-ce qu'il y a une organisation sportive que tu peux ressortir ou nous dire laquelle est la numéro 1 quand même ? Est-ce que c'est
le PSG. Du coup, c'est le PSG. Enfin, en termes de revenus, ça a été le PSG. Okay. Mais bon, pour d'abord parce que c'était les premiers, donc ils ont l'historique. Okay. Et puis la dynamique Messi a été ultra positive à un moment donné. Bien sûr. Donc le PSG reste et c'est aussi pour ça qu'on voulait qu'ils soient les premiers un peu à participer. Et pour être honnête, c'est le seul club qu'on connaisse qui a un head of Web 3, donc un employé dédié au Web 3 dans le club. Donc
On l'a vu dans le communiqué de presse justement. J'avais vu son titre et j'ai dit ah ok d'accord, il y a quelqu'un.
Ouais, c'est le seul. C'est un truc qu'on a. Et en plus, je crois dans mes différentes communications, je le dis haut et fort parce qu'on bosse avec des clubs dans le monde entier et c'est un des rares clubs qui a quelqu'un qui comprend exactement ça quoi.
Ok. Socios, Chiliz, est-ce que tu peux nous détailler aussi l'actionnariat qui détient quoi? Est-ce que tu as des actionnaires avec toi que tu peux citer, d'autres entrepreneurs, des sociétés? Comment ça
Écoute,
se
moi je suis
passe,
l'actionnaire, ouais,
l'intégration?
non, on communique pas trop là-dessus, mais bon, je suis l'actionnaire majoritaire de très loin. Et
Ok.
après, il y a eu des investisseurs qui ont ni investi ni dans Socios ni dans Chilisme, qui ont investi dans mon business d'avant. Et c'est
Ok.
juste que c'est la même société qui a continué.
Ok. Donc, tu n'avais pas forcément levé de fonds, on va dire, pour lancer ce
Non,
projet?
on n'a jamais, non, non, on n'a pas eu un changement depuis 2015 dans le capital. Donc, on s'est lancé en 2018. On n'a jamais eu de levée de fonds corporate. On a
Ok.
vendu les tokens et on a fait tout ce que, enfin, on a fait tout ce qui est très crypto-orienté, mais en tout cas, en termes de levée de fonds, non.
Ok. Et dans le futur, si on se projette en termes de relais de croissance, est-ce qu'il y a des possibilités de racheter certains de vos concurrents, s'il y en a, ou
Alors,
de revendre? Comment
ouais,
tu
nous,
vois
on
un
n'a
petit peu
pas de
l'évolution?
concurrents.
Ouais,
Bah,
c'est ça.
moi, en tant qu'entrepreneur, j'espère faire ce métier pendant les 20 prochaines années.
Ok.
Du coup, j'espère ne jamais vendre.
Ok.
Mais plutôt, alors racheter, on n'a pas de concurrents, mais racheter des produits qui sont complémentaires à ce qu'on fait, oui. Et puis juste, je pense qu'aujourd'hui, on est plutôt dans une démarche de, faut qu'on continue à investir pour essayer de donner plus aux fans, donner plus au club, avoir des meilleurs produits tech, des meilleures apps. Et puis se concentrer là-dessus, c'est déjà pas mal.
C'est vrai. Peut-être un dernier mot justement sur ce marché un peu et ce segment monétisation des fans. Qu'est-ce que tu observes toi en tant que acteur principal avec Socios de l'évolution, de ce qui peut arriver? Qu'est-ce qui peut être encore fait, on va dire, en termes de monétisation auprès des clubs, que ce soit sur le digital ou même en physique, hein? Est-ce que tu as des
Ouais,
idées, des
alors
envies,
bof,
des concepts, une exclue à
physique,
nous partager?
Non, mais physique, je suis pas un expert de loin.
Ok.
Je pense juste qu'il faut. Alors, parlons en France particulièrement. Ça va être intéressant parce que, alors, grosso modo, un club, le revenu d'un club, c'est quoi? C'est un, les droits télé, deux, le sponsoring, trois, le match day, donc
Genre de
les
match,
revenus de
billetterie.
match, les tickets, billetterie, etc. Et quatre, c'est le merchandising, donc les jerseys et compagnie. Alors, l'ordre dépend un peu des clubs, mais du coup, il y a quatre piliers. On pense que, enfin, tous ces piliers, quand tu regardes, ils sont à peu près un plafond. Les droits télé, bah, ça a plutôt tendance à aller vers le bas. Le sponsoring, ça monte d'une façon générale, mais jusqu'à, ça peut pas tripler tous les ans, ça peut pas augmenter tous les ans pour des raisons évidentes, et de place et de valeur. Billetterie, bah, pareil, tu peux augmenter un peu ton stade, tu peux augmenter un peu tes prix, mais si tu augmentes tes prix, bah, t'as des gens qui ne sont pas contents. Donc, du coup, il y a un plafond aussi. Merchandising, oui, à la limite, il y a un relais de croissance, mais ça va surtout chez Nike, Adidas et compagnie. Donc, du coup, il faut que les clubs investissent plus en digital pour créer des produits qu'ils peuvent vendre directement ou indirectement. Ce qu'on fait, c'est l'un d'entre eux, et il y en a d'autres. Mais je pense qu'aussi, ce qui va être intéressant, ça va être les ligues. Vous allez voir, alors j'espère cette semaine, mais sinon c'est la semaine prochaine, il y a une ligue en Europe qui va lancer un truc avec des cartes NFT de collectibles, un petit peu comme Sora ou d'autres avaient fait,
OK.
mais sauf qu'ils le font en interne, donc ils lancent leurs propres produits pour créer de la valeur, pour être propriétaire des utilisateurs, pour être propriétaire des clients, et ça c'est vachement intéressant, et je pense que ça va être un schéma qui va s'accélérer.
OK, donc plutôt essayer d'internaliser des choses et d'avoir le moins d'intermédiaires sur
Bah, pour les clubs
certains.
et ligues,
Ouais.
oui.
Bien
Après,
sûr.
nous, on est prestataire technique,
Oui, bien sûr,
on fournit
ouais.
de la techno ou de l'infrastructure, mais ouais.
Ok, parfait. Dernière partie, peut-être en 5-10 minutes, si tu peux nous revenir un petit peu sur ton expérience. Tu as cité Winamax, nous
Alors,
redire
oui,
un petit peu ton parcours
ouais, Winamax, j'étais
d'entrepreneur.
le cofondateur. On était trois cofondateurs et puis on a eu un petit fallout entre nous. Donc, on s'est séparés après 2 ans et
Ok.
demi ou 3 ans. Moi, moi, je suis lyonnais. J'ai eu la chance de quitter, alors c'était une chance, mais de quitter l'école avant mon bac pour mes 18 ans sans l'autorisation de mes parents. J'ai monté ma première boîte en 95 dans le monde du web, donc au tout début de l'internet en France. Et puis j'ai eu enfin je fais partie de cette première génération des créateurs du web en France des années 2000, enfin des années 95 2000. Et puis voilà, donc créé différentes entreprises dans le monde du pari sportif et poker, vendu il y a 12 ans ces business-là, rester un petit peu dans le monde du poker à travers un site de classement, donc l'équivalent de l'ATP au tennis ou PGA au golf. Il y a un classement officiel des joueurs de poker. On avait lancé ça. Et puis voilà, il y a 6 ans et demi, parti dans le monde du crypto, blockchain, sport, fan engagement. Et puis voilà, c'est là où je suis aujourd'hui et je suis très content.
Ok. Donc là, tu vis à Malte, c'est ça? Ou est-ce que tu...
Ah, moi, je vis à Malte depuis 17 ans. J'ai déménagé en 2006-2005.
Ok. Est-ce que tu, en tant qu'entrepreneur, pour toi, par rapport à la France, est-ce que c'est une étape obligatoire aujourd'hui pour faire des affaires, réussir dans cet univers, ou est-ce qu'en
Non, je pense pas. Enfin, j'espère pas. Il y a plein de successful. Non, il y a plein de succès en France. Moi, je suis parti il y a 17 ans pour d'autres raisons et je suis resté là-bas, quoi. Enfin,
tu aimes le quartier de la Valette?
Alors la Valette, c'est petit. Non, personne vit à la Valette. C'est plus en face. Mais il y a plein de voilà, il y a plein d'endroits dans le monde où on peut réussir, y compris la France. La France a un avantage, un marché domestique de 65 millions de personnes, une qualité de vie incroyable. Donc voilà, après c'est les choix de vie. Moi, j'avais fait le choix de partir il y a 17 ans. Et maintenant j'ai des familles ailleurs. Donc j'ai aucune envie ni besoin de rentrer en France, mais pour autant, j'adore passer mes vacances en France.
Bien sûr. Ouais. Est-ce qu'il y a un modèle d'entreprise justement sur lequel tu t'inspires, où tu t'es toujours dit waouh, ils sont incroyables, je m'en inspire dans la méthodologie, dans le travail, ou un entrepreneur justement où...
Alors, où tu... bah, moi, j'ai toujours été fan de Virgin, enfin de Sir de Richard Branson, Virgin. Ça, ouais. Et c'est d'ailleurs pour ça que Chili, enfin, j'utilise. Il avait créé il y a 20, 25, 30, 40 ans maintenant. Donc tous ces business sont autour du mot Virgin, Virgin Megastore, Virgin Music, Virgin Space, Virgin Atlantic, machin. Et quand en 2006, quand j'ai quitté justement Winamax, 2005, j'ai voulu créer une marque. Enfin, j'ai cherché un nom et une marque que je pourrais, dans les 20, 30, 40 prochaines années, grandir. Et j'ai utilisé le terme Chili. Et c'est pour ça que ma boîte de poker s'appelait Chili Poker, Chili Gaming, Chili Bet, Chili Casino. Alors, j'ai vendu la techno, mais j'ai pas vendu les marques. Et c'est pour ça que je suis reparti derrière avec Chili's aussi. Et je pense que j'espère, si je peux dans les 20 prochaines années, continuer à utiliser ces marques-là et créer un truc un petit peu à la Virgin dans 20 ans. Mais on a le temps pour l'instant.
Et sur toute cette carrière, est-ce que tu as un souvenir ou une anecdote particulière justement, mais dans l'aspect entrepreneuriat, est-ce que tu as un souvenir comme ça d'une nuit blanche ou de plusieurs nuits blanches que tu as passé à bosser tout seul ou avec quelqu'un, ou est-ce qu'il y a eu des voyages où tu n'attendais pas et au final tu te dis ce matin ça va être une journée de merde et au final tu as cartonné sur un truc, je sais pas.
Il y en a trop, donc ça va être difficile d'en sortir une, mais des nuits blanches à coder, à créer des sites. Ça, j'adore être de mon ordinateur, écouter de la musique, écouter de la musique forte, pas dans un casque à l'époque, mais juste forte dans le bureau. Ça, j'aimais bien. Richard Branson, je vais dire une anecdote marrante. Attends, c'était en quelle année? Ça devait être 2000, 2000, 2001. Je suis à Lyon, il y a Richard Branson qui ouvre un Virgin Megastore en face de mon bureau. Donc j'étais comme un ouf, et comme tout bon français qui se respecte, sur toutes ces années là j'avais un anglais de merde. D'autant que moi j'avais pas fait passer le bac, donc j'étais pas allé plus loin, donc j'avais un anglais de première, et qui plus est de mauvais élève, j'ai réussi, je sais pas comment, à me caler un rendez-vous avec lui pendant l'ouverture du Megastore. Donc il m'emmène dans une pièce avec son assistante et tout, et on parle 5 minutes et je baragouine du franglais. Je pense qu'il a jamais compris ce que j'ai voulu dire. Moi, j'étais honteux, j'avais honte d'avoir eu la chance d'avoir ce meeting et de finalement pas avoir transformé ça intelligemment, donc ça c'est une de mes rencontres un petit peu rigolotes que je me souviendrai toujours, parce que je m'en veux toujours d'avoir eu un anglais de merde à ce moment-là.
Ok, donc ça c'est le conseil qui revient.
Et c'est d'ailleurs, soit dit en passant, la raison pour laquelle je suis parti à Malte, c'est justement que je voulais être bilingue. Et du coup aujourd'hui c'est l'inverse, c'est j'en perds mon français, c'est Jean-Claude Van Damme dans Les Guignols, c'est j'en perds mon français, quoi.
Ok, justement, là, donc le conseil que tu donnerais à des jeunes entrepreneurs qui veulent lancer une start-up, que ce soit dans le sport ou pas, c'est d'oser. C'est ce qui ressort souvent, de toute façon, j'ai l'impression, là, de par rapport à ton
anecdote. De toute façon, oui, faut jamais, never give up. Faut y croire. Alors il y a aussi une balance, hein. Il y a quelqu'un qui m'avait dit un jour, quelqu'un du groupe Carrefour qui était actionnaire chez moi dans les années 2000, m'avait dit: Alexandre, un bon entrepreneur c'est quelqu'un qui sait s'arrêter. Et donc faut aussi pas, parfois faut savoir s'arrêter et prendre et, enfin, et accepter de perdre quelque chose pour rebondir derrière. Et ça m'est toujours resté parce que ça, c'est vrai.
C'est vrai. Et justement, après, à toi, à titre perso ou avec, avec des sociétés, est-ce que tu investis en tant que business angel?
Très peu.
Dans des secteurs,
non,
très peu.
Très, très, très peu. D'abord parce que je n'avais pas gagné beaucoup d'argent pendant des années.
Ok.
Ensuite, j'investis principalement dans mon business ou réinvestir dans mon business.
Bien sûr.
Des très petites opérations, mais liées à mon métier. J'investis pas dans l'IMO ou très peu, j'investis pas dans tout ça. Juste parce que, un, j'ai pas le temps. Deux, investir dans une boîte, moi je suis un entrepreneur assez paternaliste, un peu vieille génération. Du coup, si je mets de l'argent dans une boîte et que les mecs font pas ce que j'aimerais qu'ils fassent parce que je pense que j'ai raison, ce qui veut pas dire que j'ai raison, hein, mais parce que je pense que j'ai raison, on va se mettre dessus. Et donc, du coup, ce sert à rien.
Ouais.
Moi j'aime bien prendre des risques sur mes prises de parole et mes prises de paris. Et du coup, bah, je préfère tout perdre que de gagner avec d'autres. Enfin, de gagner sur d'autres.
Ouais, je comprends. Et dernière question, c'est quoi ton rapport au sport? Est-ce que tu es un pratiquant d'un sport en particulier? Est-ce que tu consommes du sport en tant que spectateur, fan?
Non, moi, je suis avant
ça
tout un geek et un nerd. Donc, j'étais pas particulier. Enfin, je suis pas fan de sport. Je découvre un peu parce que j'ai pas le choix. Et aussi,
okay.
Je suis invité à peu près partout,
okay.
Soit parce qu'on est sponsor, soit parce qu'on est, on les connaît tous. Mais il faut me faire, comment tu dis en français, se faire quand tu t'obliges à faire quelque chose. On appelle ça. Ah, je sais
ouais,
pas comment
tu
on appelle
te
ça.
Forces ta nature, tu.
Ouais, enfin, moi, quand tu me dis, tiens, est-ce que tu peux venir pour un match du Champions League? Je suis là, ça me fait chier,
Ouais,
quoi.
ok.
Mais du coup, alors la vérité, c'est que je fais les matchs de Champions League du PSG principalement parce que c'est, comme dirait l'autre, en semaine et donc j'ai pas besoin de quitter ma famille pendant le week-end. Et
ouais.
Donc, voilà, c'est la seule raison pour laquelle je me fais des matchs et je fais des rendez-vous business. Mais c'est vrai que, non, j'ai pas du tout d'appétit. J'adore, hein, c'est passionnant, c'est intéressant et tout. Mais voilà, c'est pas mon monde. Moi, c'est mon monde de la tech. Je préfère rencontrer Steve Jobs ou Tim Cook que de rencontrer Mbappé, si tu veux.
Ok. Et après, même un autre sport, je veux dire, course automobile ou tennis, des choses comme ça, UFC, pas plus non plus, t'as pas d'intérêt.
Alors, l'UFC, alors, on est sponsor et partenaire de l'UFC depuis 2019, je dirais, ou 2020.
Ouais.
J'y suis allé deux fois parce que pour justement aller voir, pour rencontrer Dana White. My brother from another mother, ce qu'on voit souvent.
C'est vrai.
Ça, c'est une petite anecdote rigolote. À chaque fois, quand j'étais dans le monde du poker, j'allais tous les étés à Vegas pour les World Series of Poker.
Okay.
Et à chaque fois, je sors, je prends le taxi, les mecs me disent, oh, you look like Dana White. Moi, je dis, mais c'est qui ce Dana White?
Il faut que je le rencontre.
Et donc, du coup, ouais, je suis devenu sponsor 10 ans plus tard, pour au moins le rencontrer, faire ma photo. Donc, j'ai ma photo et c'est my brother from another mother. Mais après, non, alors, l'UFC, c'est violent. Alors, du coup, j'avais peur d'aller voir l'UFC, mais bon, c'est un peu moins pire que ce que je pensais. J'ai vu le côté sportif du truc. Oui, la F1, bah, on est sponsor de quelques écuries de F1, donc du coup, j'y vais de temps en temps. Là, je vais aller ce week-end pour à Jeddah en Arabie Saoudite, mais c'est plus parce que c'est une opportunité de. En fait, moi, je pars avant la fin du circuit, quoi. C'est plus pour rencontrer des gens et voir des gens qui, comme moi, vont faire du business là-bas, mais c'est pas du tout pour les forces sportives. Mais du coup. Certes, j'apprécie et je commence à m'éduquer un peu plus, mais c'est pas pour ça, quoi.
Bien sûr, ouais. C'était pas ta motivation première quand tu t'es lancé là-dedans. Et en termes de pratique sportive,
pas.
Est-ce que tu pratiques du sport? Tu fais de la salle?
Ouh là là,
du jogging?
C'est dangereux, le sport.
Au jogging, attention, j'ai dit un mot des années 80. Du running?
Bah, moi, vous êtes fou, monsieur, le sport, c'est dangereux. Moi, tous les gens que je connais qui font du sport, ils sont blessés. Donc, non, moi, je fais pas de sport. Et, si, je fais un peu de paddle une fois par semaine maintenant avec ma femme. Le paddle, ça, j'aime bien parce que ça me parle. C'est simple, c'est cool, c'est social, on est quatre sur un truc, on rigole, on s'insulte, c'est bien.
Ouais, je finirai là-dessus. Je suis allé à Malte il y a 3 ans justement en montant sur la petite île au nord. On avait pris
Gozo,
c'est ça. Et on avait pris le bus qui t'emmène jusque. Et du coup, on est passé pas très loin d'un terrain de padel. J'en avais pas vu parce que je joue beaucoup au padel.
Ah ouais, non, c'est énorme ici, c'est énorme, c'est vraiment énorme. C'est gros, enfin, tous les gens, de toute façon, c'est simple, tous les expats jouent au paddle, période. Je connais pas un expat je connais pas d'expat qui joue pas au paddle.
C'est vrai. Merci Alex. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup pour les 6 prochains mois? Il y a des annonces à venir.
Il y a me casser qu'en faisant pas de sport, de pas me blesser. Et le reste, business as usual, prendre des risques, faire plaisir et continuer à avancer.
Parfait. Eh ben, je te remercie pour cet échange très passionnant. Chers auditeurs, auditrices, je vous dis à bientôt pour une nouvelle série sur Entreprendre dans le sport. Merci beaucoup, Alexandre.
À bientôt. Ciao.